Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour et bienvenue, votre 90 minutes info qui s'ouvre sur cette image, on va peut-être l'apercevoir, c'est en direct, ça se passe à Belfast, Charles III, le roi Charles III accompagné de la reine consort Camilla qui sont en train de prendre congé des parlementaires nord-irlandais. Il y a eu un hommage qui a été rendu bien sûr à la reine Elisabeth II et là ils sont en train de prendre la direction, le couple royal, de la cathédrale Sainte-Anne où un office sera prononcé d'ici une grosse demi-heure environ. Et bien sûr, nous y serons. Voilà. On va s'interrompre momentanément sur cette image pour laisser la parole à Adrien Spiteri pour le résumé du reste de l'actualité. Bonjour Adrien.
Le cinéaste Jean-Luc Godard, qui s'est éteint à 91 ans ce mardi, a eu recours à l'assistance au suicide. Selon le conseiller de sa famille, le réalisateur serait allé en Suisse pour cela. Dans le pays, il existe différentes formes d'assistance au décès, telles que l'euthanasie passive et l'assistance au suicide. Figure majeure du cinéma des 50 dernières années, le cinéaste avait 91 ans. L'Olympique de Marseille reçoit les Allemands de Francfort ce soir à 21h. Match à suivre en direct sur Canal+. Une rencontre sous haute surveillance. Un millier de gendarmes et policiers seront mobilisés. Hier soir, une rixe a opposé une vingtaine de supporters allemands et marseillais. 8 personnes ont été interpellées. Au moins 8000 supporters allemands sont attendus. Et puis 66% des Français estiment que leur pouvoir d'achat va diminuer au cours des 12 prochains mois, soit 29 points de plus que l'année dernière. C'est le résultat d'un sondage CSA pour Cofidis. Avec la hausse des prix, le pouvoir d'achat est devenu la principale préoccupation des Français.
Voilà, et cette image que vous allez apercevoir en direct d'Irlande du Nord où se trouve le couple royal, là c'est le cortège royal qui est en train de quitter le Parlement nord-irlandais pour se rendre vers la cathédrale Sainte-Anne. Ce qui frappe tout de suite, et je vais me tourner vers les invités du jour que je vous présente, c'est la même équipe hein, qu'en ce début de semaine. On retrouve Jean Garrigue, Marc Menant, Bertrand Dekers et Philippe Delorme. Moi, ce qui me frappe sur ces premières images, et quand on connaît l'histoire troublée de cette partie de la Grande-Bretagne, qu'est l'Irlande du Nord, c'est le nombre d'Union Jacks qui sont en train de flotter et d'être agités par les passants. C'est un signe quand même assez fort en ce jour de présence du nouveau monarque sur place. Marc Menant, on ne va pas tirer des conclusions hâtives, mais enfin bon, voilà, on voit qu'il y a toujours cette dichotomie entre les sécessionnistes et les unionistes, comme on les appelle.
Oui, mais vous avez fait une très bonne analyse à partir des images. Tout à l'heure, quand on s'est retrouvé face au président de l'Assemblée, on était avec les sécessionnistes. N'oublions pas que ce président a été membre de l'IRA, c'est un forcené du séparatisme, et il l'a affiché tout de suite très très clairement. Et d'ailleurs, la réponse du roi était très très courte, et je dirais plus que diplomatique, comme si les deux hommes s'étaient approchés sans se rencontrer. En revanche, la rencontre s'est faite à la sortie en particulier du Parlement, où il y avait une foule aussi gigantesque que ce que nous avons vu en Écosse.
Maintenant, c'est sur un périmètre plus réduit, hein, parce que le parcours était plus conséquent quand même hier en Écosse. Mais enfin, voilà. Et là aussi, on avait vu beaucoup de drapeaux de l'Union Jack flotter.
Philippe Delorme. Je vais faire quelques rappels historiques sur les rapports entre l'Angleterre, enfin, la Grande-Bretagne et l'Irlande, qui l'Angleterre envahit l'Irlande à la fin du XIIe siècle et la garde un peu comme une sorte de colonie, même de colonie d'exploitation hein, jusqu'au XIXe siècle, puisqu'il y a des grands féodaux qui s'installent, qui possèdent les terres et qui... je dirais, pressure quand même un petit peu la population irlandaise. Donc l'Irlande qui va trouver son l'Irlande du Sud qui va trouver son indépendance en 1921, voilà, va se séparer de cette partie nord qui, elle, est formée d'à peu près un tiers de l'île, hein, 6 comtés sur et l'autre 26. On a dans cette partie nord des gens qui sont des colons anglais aussi, hein, des gens qui sont installés d'Angleterre au fur et à mesure des siècles. Donc il y a une population qui est relativement différente de celle du reste de l'île, qui est protestante, alors avec les différentes nuances de protestantisme à 40%, alors qu'il y a aussi quand même 40% de catholiques. Donc ce qui explique pourquoi, effectivement, ce que disait Marc tout à l'heure, c'est que les unionistes sont... ils vont agiter des Union Jack parce qu'ils sont pour, bien sûr, rester eux-mêmes. Ils se considèrent d'ailleurs comme britanniques. Hein. On peut garder, maintenant, depuis 1998, où il y a eu cet accord dit du Vendredi Saint, eh bien, on peut se dire soit britannique, soit irlandais. Donc voilà, les choses sont très très compliquées.
Il y a eu quand même, on n'en a pas beaucoup parlé, mais quelques heures à Derry, Derry qui avait été meurtri en 1972, vous vous en souvenez, hein, beaucoup de morts à Londonderry. La donne politique a changé, Jean Garrig, dans cette partie de la Grande-Bretagne, avec le Sinn Féin qui désormais est majoritaire.
Oui, les plaies ne sont pas refermées, justement, parce que la reprise du conflit dans les années 60, à partir de 1968, le Bloody Sunday 1972, l'armée britannique a tiré sur
les
nationalistes irlandais, catholiques, tout ça a mis un peu de temps à se refermer. Il y a encore un sentiment indépendantiste très très fort, nationaliste très très fort. Et c'est vrai que récemment, à la majorité parlementaire, au Stormont, à l'Assemblée d'Irlande du Nord, j'allais dire Ulster, non, c'est l'Irlande du Nord, eh bien, il y a une majorité nationaliste qui s'est...
Très récent, en plus.
C'est très récent, ça fait 2-3 mois. Et ça veut dire que le sentiment, il est encore très, très fort. Mais c'est vrai que là encore, on va retomber, je pense, sur la même dualité que vous évoquiez, comme en Écosse. C'est-à-dire que vous avez ce sentiment nationaliste très, très fort, même des velléités indépendantistes, même s'ils ont déjà une autonomie très, très forte. Mais des velléités indépendantistes et en même temps, cette révérence envers la couronne, l'Union Jack qui est sortie. Donc, je pense qu'on va avoir cette dualité, on va la sentir tout au long de ce...
Quand même, la révérence envers la famille est sans doute moins forte chez les catholiques.
Moins forte.
Font à peu près 40% de la population de l'Irlande du Nord. Mais enfin, c'est vrai qu'aussi que cette dichotomie religieuse entre protestants et catholiques a tendance à s'effacer aujourd'hui parce qu'on est moins religieux qu'il y a une cinquantaine d'années.
C'est vrai, oui.
Donc, du coup, tout ça... D'ailleurs, je pense que la cérémonie qui va se dérouler dans la cathédrale anglicane, donc protestante Sainte-Anne, va être sans doute écuménique. Il y aura sans doute un prêtre ou un évêque catholique qui va prendre la parole. Donc tout ça, effectivement, c'était ce qui expliquait pourquoi il y avait une Irlande du Nord. Ça disparaît. Et puis il n'y a plus de frontières. Hein, quand on est en Irlande, on passe de l'Irlande du Nord à l'Irlande du Sud. Il n'y a même pas un panneau.
Pour le moment, il n'y a plus de frontières.
Voilà. Pour le moment.
Et alors, dans le même temps, Bertrand Decker, à moins que vous vouliez commenter cette actualité aussi politique, à charge pour ce nouveau roi de tenter de préserver cette union coûte que coûte. Dans le même temps, l'actualité aussi, c'est le transfert du cercueil d'Elisabeth II de Aberdeen jusqu'à Londres. Et alors là, il y a encore toute une séquence qui va s'ouvrir sur ces commémorations.
Oui, absolument, ça, ce sera à 18h précise, heure française. Donc, la dépouille va quitter donc, la cathédrale Saint-Gilles, où elle est actuellement donc, à Édimbourg, pour rejoindre l'aéroport. Vous le dites, on sait que la dépouille voyagera en compagnie de la princesse royale, la princesse Anne, et de son mari Timothy Lawrence. Il y aura également quelques militaires. Et nous apprend-on récemment le révérend David Ferguson, qui est le doyen de la chapelle royale en Écosse. Et alors, on sait que c'est lui qui a vraiment passé les dernières soirées avec Elisabeth II et qu'ils ont énormément parlé, on dit, du prince Philippe et de la vie après la mort. C'est pour cela qu'il fait partie de ce voyage. C'est une opération militaire qui s'appelle Overstudy, le fait de rapatrier cette dépouille. Et elle arrivera donc à 19h55, 20h, à Londres, où elle va emprunter la A40 de façon à rejoindre alors le palais de Buckingham Palace en deux temps. Une première exposition dans la Dower Room, qui sera réservée vraiment aux membres de la famille royale, et demain, un transfert dans la salle du trône, qui, pour un hommage des membres du personnel, on estime à plus de 1000 membres du personnel.
Parce qu'on le rappelle, il y avait deux options qui étaient sur la table jusqu'à encore récemment.
Deux opérations militaires.
Un transfert donc,
en train,
par voie militaire, ou alors la voie plus classique, effectivement, du retour en train. Oui. Est-ce qu'on sait pourquoi l'une a été préférée à l'autre ?
Il semblerait que l'on... Enfin, c'est pas que l'on ait déjà un peu de retard, mais je vous rappelle que le London Bridge Code était prévu sur 10 jours, et on vient de voir qu'on est passé à 11, en réalité, pour ne pas que l'hommage soit célébré un dimanche. Et il aurait été beaucoup plus long de rapatrier la dépouille en train avec l'opération Unicorn, qui, on le sait, avait été davantage répétée, d'ailleurs, que l'opération Overstudy. On rappelle qu'il y a 800 km kilomètres qui séparent Édimbourg de Londres. Mm-hmm. Et jusque maintenant, on était essentiellement habitué à voir le train royal, la locomotive royale qui tractait une voiture funèbre, si l'on se réfère par exemple
au décès de George VI. Et là, il y avait un certain nombre de contraintes, avec aussi la présence dans quelques jours des dignitaires étrangers. Il fallait quand même respecter un minimum le programme.
En écoutant Bertrand, qui est toujours passionnant, quelque chose qui m'a frappé. Vous dites, Bertrand, que cet archevêque était auprès de la reine depuis plusieurs jours.
Un révérend.
Oui, mais pour évoquer la mort et surtout après la mort. C'est-à-dire que ça signifie que la reine s'est vue partir. Quand elle s'est dressée devant la première ministre, apparemment, elle a fait un... Non, mais c'est essentiel ce que vous venez de nous apprendre. C'est-à-dire que c'est pas un petit détail. Elle a senti qu'elle était en train...
Qu'elle avait déjà le rendez-vous avec...
Qu'elle avait avec rendez-vous avec la transcendance et qu'elle voulait préparer cet instant, répondre à toutes les interrogations du terrestre que nous sommes. Et ça, c'est une information essentielle que vous venez de formuler.
Ça, c'est une démarche de l'ancien monde qu'on faisait jusqu'au XVIIIe siècle. On préparait sa bonne mort.
Oui, mais ça veut dire qu'elle se sentait en train de mourir. C'est ça.
Elle savait que c'était le moment, en tout cas, d'y procéder.
Aujourd'hui, la mort, on la cache. Enfin, on voit Godard qui va se faire suicider, je ne sais pas, en Suisse. Là, à l'époque, on préparait la mort. On l'a... pendant des jours et des jours, et puis...
Oui, mais voilà, il fallait la sentir venir.
Bien sûr.
Et c'est ça qui me paraît essentiel dans les
propos. Rappelle, Marc, elle avait 96 ans, donc...
Oui, d'accord, mais
Bertrand
de Kers, il y a 4 mois, et là, c'est 3 jours.
Bertrand de Kers, cette religiosité au sens large, et ce côté mystique chez Elisabeth II, souveraine du Royaume-Uni, est-ce que vous l'évoquez dans votre dernier ouvrage qui lui est consacré? Je rappelle son titre, il va sortir dans quelques jours, c'est « I love you, Elisabeth ».
I love Elisabeth II, c'est une déclaration d'amour, oui, posthume certes, mais voilà qui est d'autant plus forte encore, je trouve. Absolument que je parle de cette religiosité, puisque moi, ce qui me fascine, c'est qu'elle porte le titre de lieutenant de Dieu sur Terre. Elle est la représentation de Dieu sur Terre. Voilà, un peu une équivalence du pape, en quelque sorte. Donc, elle a ses différents rôles. Donc, oui, j'évoque évidemment le côté religieux qui a toujours été très important pour elle. Lorsque l'on a une mission comme celle-là, qui vous échoue. Ben voilà, forcément, on peut se dire qu'il y a peut-être seulement la religion qui peut peut-être vous donner peut-être la force de faire des choses un peu extraordinaires. Elle était tout sauf une femme ordinaire, hein, Elisabeth II.
Mais Jean. C'est la raison profonde, me semble-t-il, de cet engouement, parce qu'on peut parler d'un autre mot, non seulement dans les îles britanniques, mais dans le monde entier aujourd'hui. Parce que, y compris dans une république laïque comme la nôtre, elle nous renvoie justement à ce qu'était cette image du roi, loin de Dieu, loin du Seigneur, roi de droit divin, à cette religiosité, au sacré, à la transcendance. Et c'est quelque chose, effectivement, que nous avons perdu, en tout cas que nos institutions ne permettent pas, et qui éveille notre nostalgie, justement, de cette sacralité. Et je crois que c'est quelque chose de très important.
Le roi Charles, dès ses premiers mots, a tout de suite affirmé cette foi. Oui. Cette appartenance et ce devoir d'intercession entre les hommes et le divin.
L'agonie du roi sous l'Ancien Régime, enfin on pense à l'agonie de Louis XIV, est décodifiée, faisait partie de l'étiquette, c'est-à-dire qu'on se réunissait autour du roi, il y avait des prières, les gens venaient, enfin c'était quelque chose, il ne mourait pas en catimini.
On assistait à peu près à toutes les séquences de sa vie.
Mais disons que
il s'agit de Louis XIV.
Mais la mort était quelque chose qu'on ne cachait pas et qui était au contraire encore entouré d'un cérémonial.
Marc, hier on parlait du sacré, du mystique, vous vous en souvenez dans cette discussion. Mm-hmm. Et là c'est vraiment ça. On se disait juste avant de quitter le plateau hier qu'on aurait voulu rester dans cette bulle, un peu comme protégée par cette dimension qui nous faisait sortir aussi les uns et les autres de notre quotidien. Il y a un peu de ça.
Mais c'est tout à fait ça. Depuis jeudi, d'abord, on a attendu l'officialisation, mais on avait compris dès lors que la BBC cessait ses émissions que l'instant fatal avait frappé. Reste que, depuis, on est dans une immersion, dans une sorte de suspension du temps. Et pourquoi les gens restent rivés à leur téléviseur? C'est qu'à chaque instant, on est dans une projection avec ces forces, lorsque l'on assiste à une messe, les cœurs, les tenues. Et dans tout cela, il n'y a plus notre quotidien qui transparaît. Et nous-mêmes, sans nous en rendre compte,
on est dans une sorte de contagion spirituelle. Je n'ai pas dit de religion, j'ai dit spirituelle, oui, malgré nous.
Alors, je vais juste vous interrompre quelques instants, mais bien sûr, vous pourrez continuer de, avant le début de l'office à commenter cette actualité. On va quand même s'attacher à l'image, parce que là, le couple royal, ou en tout cas son cortège, est en train d'arriver devant cette fameuse cathédrale Sainte-Anne, où les convives, les invités, on imagine qu'il y a un panel très large hein, de personnes pour représenter au mieux la société nord-irlandaise telle qu'elle est aujourd'hui, avec, vous le voyez ici, la présence de la Première ministre, Liz Truss, qui a fait le déplacement également. Ça aussi, c'est un fort signal politique qui est envoyé, on pourra le commenter à nouveau. Et ces personnes ont pris place dans l'enceinte de cette cathédrale depuis déjà plus d'une heure. Hein.
Et l'orgue qui vous cueille.
C'est une cathédrale.
Hein, pour aller dans ce que vous évoquez.
Alors, Jean, puis Bertrand.
Vous avez raison sur le signal politique. La Première ministre se déplace de Londres à Belfast.
Là, il y a un signal politique.
Ah, il y a un signal politique.
Bien plus fort que la prise de parole de Charles tout à l'heure, qui n'a pas dit grand-chose.
Qui ne pouvait pas.
C'est très consensuel. Bertrand de Kers.
L'office qui va débuter a été qualifié par le palais de Buckingham de messe d'action de grâce. Donc, dans le fond, c'est un moment qui permet de se souvenir donc d'Elisabeth II et de l'honorer, en quelque sorte, une dernière fois pour l'Irlande. Et je voulais vous dire que cet édifice religieux, il est très contemporain, 1899 pour sa construction. Et vous allez voir, on l'a déjà d'ailleurs aperçu, qu'il y a une énorme flèche métallique qui mesure 40 mètres de haut et qui est éclairée et illuminée la nuit et qui s'appelle la flèche de l'espoir. Ça veut donc dire que cette cathédrale, elle a aussi un côté très contemporain.
En même temps, c'est, je dirais,
flèche de l'espoir.
C'est quand même le symbole de l'anglicanisme, c'est-à-dire d'une forme du protestantisme sur une terre de tradition catholique. Donc c'est aussi pour les catholiques sans doute un lieu un peu conflictuel, même si je pense que cette cérémonie va être écuménique.
Alors,
on aura certainement des protestants, des presbytériens aussi, puisqu'il y a beaucoup de presbytériens aussi en Irlande du Nord.
Dans l'attente de Charles III et de la reine consort Camilla, je vous propose de nous rendre à Londres, où nous attend l'un de nos correspondants, Florian Tardif, envoyé spécial, mais vous êtes tellement à l'aise, mon cher Florian, qu'on dirait que vous êtes un correspondant permanent dans cette belle capitale. Non, mais c'est vrai. Il y a l'attente, bien sûr, du cercueil hein, dans la soirée, de la dépouille. Il sera accompagné par la princesse Anne. Et puis donc, demain, hein, vous me confirmez, c'est en Angleterre que tout se passe.
Oui, tout à fait. Dans un premier temps, le cercueil de la reine va être rapatrié grâce à un avion affrété par la Royal Air Force, avion qui atterrira aux alentours de 19h ici, heure anglaise, 20h chez vous, heure française, à l'ouest de Londres, dans un des aéroports justement de la Royal Air Force. Il y aura ensuite un convoi funéraire qui transportera le cercueil jusqu'à Buckingham Palace, et le lendemain, mercredi, dans l'après-midi, il y aura une procession militaire qui sera organisée afin de transporter de nouveau le cercueil depuis Buckingham Palace jusqu'au Parlement britannique qui se trouve juste derrière nous. Ce dernier sera conservé pendant 4 jours, Nelly, dans la plus grande salle du Parlement britannique, qui est le Hall de Westminster. C'est là qu'hier Charles a tenu un discours assez court devant les parlementaires, quelques 900 parlementaires qui étaient présents, et la population britannique pourra enfin voir la reine ici à Londres pendant 4 jours, 24 heures sur 24. Il faudra alors faire la queue ici, justement là où nous nous trouvons, une queue de quasiment 5 km qui part depuis le pont de Londres, même un tout petit peu plus loin au niveau de la Tower Bridge. Il faudra donc, vous l'avez compris, prendre son mal en patience, prendre avec soi de l'eau, de la nourriture et être prêt à attendre comme cela, debout pendant des heures. C'est ce qu'expliquent les autorités à la population qui souhaiterait apercevoir une toute dernière fois le cercueil de la reine et venir se recueillir devant ce dernier. Il faudra également avoir une tenue correcte avant de pouvoir se rendre à l'intérieur du Parlement britannique et ne prendre aucune photo ni aucune vidéo, seulement se recueillir quelques instants devant le cercueil de la reine une toute dernière fois.
Florian, tant que vous êtes avec nous, et vraiment en quelques instants, vous qui lisez la presse, qui l'épluchez tous les jours maintenant, la cote de popularité du roi Charles III, elle a déjà évolué hein.
Oui, tout à fait. J'ai lu ce matin The Times et il y a eu un sondage qui a été réalisé ces dernières heures auprès de la population britannique concernant justement l'opinion qu'a la population britannique du nouveau roi ici au Royaume-Uni. Et cette opinion a considérablement évolué, puisque on est passé globalement d'une opinion plutôt défavorable concernant le nouveau monarque qui était jusqu'à présent le prince de Galles. Vous voyez voyez sur très concrètement à l'image, on était aux alentours de 30%, 34-35% d'opinion favorable ces derniers mois. Et là, suite au décès de la mère donc de Charles et de la reine, on a considérablement évolué. On est passé en quelques jours à 62-63% d'opinion favorable concernant le nouveau roi d'Angleterre. Et on a particulièrement ici apprécié le discours qu'il a tenu vendredi dernier suite au décès de sa mère. Un discours à l'ensemble de la nation où il a parlé d'amour, justement, amour d'un fils vis-à-vis de sa mère, de dévotion d'un roi vis-à-vis de son peuple et d'unité, unité de la nation, qui est extrêmement important ici, puisqu'on attend de la part du nouveau roi du Royaume-Uni qu'il représente justement ce dernier.
Merci beaucoup, mon cher Florian, et on remercie évidemment Antoine et Steph qui vous accompagnent pour la réalisation de ces images.
Moi, je voudrais le féliciter parce qu'il porte déjà l'imperméal Burberry.
Ah, mais absolument, il est super, il est parfait. Je pense qu'il va plus rentrer à Paris, malheureusement.
Non, mais sérieusement, pour revenir sur ce qui a été dit, on se doutait que ce qui est en train de se passer avec la ferveur qu'on voit, y compris là à Belfast, autour de Charles III, mais aussi évidemment de la reine disparue, allait un peu transformer, un peu changer la donne. Et c'est vrai que les premiers pas de Charles III sont réussis. Je veux dire que le premier discours, la manière aussi où il est allé saluer la foule, oui, dans un style un petit peu différent de sa mère, mais en même
un peu
temps,
proximité,
avec la réserve qui s'y est. Oui. Je pense que vraiment, au cordeau, il a endossé le rôle avec beaucoup de...
Philippe Delorme, on est passé du simple au double quand même en termes de popularité.
Oui, mais c'est simplement parce qu'avant, il n'était simplement le prince Charles, idam anonyme, et maintenant, il est le roi.
Comme vous y avez.
Enfin, anonyme, oui, en tout cas, mais maintenant, il est le roi. Donc, il engrange toute la popularité de l'institution.
C'est la succession, quoi.
Il n'est plus uniquement...
Autour de Lady Di et tout sont effacés maintenant.
Et puis, alors, simplement, je voulais souligner que la cérémonie de demain, donc ce grand défilé dans les rues de Londres, a déjà été répétée ce matin. Et les Londoniens qui se sont levés à 4 heures du matin ont eu la surprise de voir des milliers de soldats dans les rues avec un faux cercueil qui s'est en train de répéter le...
Bertrand Dekkers, pour plus d'un complément d'information.
Voilà, on peut peut-être en effet dire que ça, tout, vous savez, est codé, tout est militaire. Alors, elle s'appelle l'opération Lion. Et qu'est-ce que l'on a constaté dans cette opération Lion? Moi, ça me fascine, hein, je le dis clairement. C'est qu'il faut très exactement 38 minutes. Il va falloir 38 minutes pour que le transfert de la dépouille quitte Buckingham et arrive aux marches de Westminster Hall. La dépouille quittera donc à 15h22, très précisément, heure française, pour arriver à 16h00 aux marches de Westminster.
Confiance pour tenir cette horaire.
On peut vraiment leur faire confiance.
L'heure est trop importante.
Une supériorité des Britanniques, du protocole britannique sur les nôtres, parce que, y compris dans nos grandes cérémonies républicaines, dans les prises de pouvoir, les intronisations de président de la République, il y a toujours du retard en France. François Mitterrand était un spécialiste, Emmanuel Macron a un peu la réputation aussi.
Enfin là, on parle de la couronne.
L'exactitude et la politesse des
rois. Pas tout à fait.
C'est la supériorité d'un protocole.
On parle de siècles d'expérience en termes de protocole.
Mais au-delà de ça, quand même, et c'est bien de le souligner, on assiste à une majesté dans l'exécution, que ce soit des messes, les chœurs. On se dit, mais c'est pas possible, en général, pour aboutir à un... J'allais dire spectacle, c'est surtout pas un spectacle, mais à quelque chose d'aussi grandiose, ça demande des mois de répétition.
Savez, c'est la mécanique, on parlait de la mécanique de Versailles, c'est un peu ça, c'est une espèce de mécanique bien huilée qui
voilà, se met en branle.
C'est pas un spectacle, c'est une super production, voilà, je trouve, pour le coup. Et en effet, on sait déjà que la BBC est en train de placer toutes ses caméras à des endroits très très précis, très stratégiques.
Ils ont calculé tous les angles de vue.
Absolument, et on sait que des caméras vont être quasiment utilisées pour la première fois, c'est presque des prototypes de façon à pouvoir zoomer parfaitement sur l'image qu'il va falloir. Et je vous assure que si on est déjà surpris par ce volet un peu grandiose, comme Marc Menant nous le souligne, et surpris, un peu ébahi lui aussi, ça va vraiment commencer seulement maintenant. Oui. C'est vraiment lorsque la dépouille arriver à Londres, je vous assure qu'on va monter crescendo et que l'on va vraiment voir encore un côté protocole beaucoup plus présent dans les ordres.
Vous direz les Anglais, you haven't seen anything yet. Oui, mais encore rien vu.
Certains disaient même que finalement c'était le dernier cadeau d'Elisabeth II à son peuple, c'était d'être décédée en Écosse, c'est-à-dire d'avoir fait comme une sorte d'expérimentation des cérémonies là-bas en Écosse, et puis la tournée de Charles III, Écosse, Irlande, et puis on va vers.
Alors, à l'image, toujours, hein, on aime bien quand même, voilà, vous commenter un petit peu la progression sur le parcours, vous l'apercevez, ce cortège royal, puisqu'il y a le drapeau évidemment qui signifie la présence du roi à son bord, roi Charles III qui va sortir du véhicule pour s'engouffrer, c'est évidemment le dernier arrivé avec Camilla. Dans cette cathédrale Sainte-Anne où sera prononcé un office. Et vous le voyez, beaucoup de monde, hein, encore pour les accueillir. Beaucoup de monde à qui il a fait un petit salut d'ailleurs à la foule. Voilà, c'est vrai qu'il est moins protocolaire. C'est une autre époque que celle d'Elisabeth II. Mais il avait aussi un rapport différent au sujet britannique avant cela, hein, forcément.
On est à une autre
époque. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Camilla, très à son aise. On n'a pas beaucoup parlé. Camilla qui a endossé ce nouveau costume, elle aussi.
Comment vous la trouvez ? Depuis 17 ans, elle est mariée depuis 17 ans.
Ouais.
Et je pense que depuis 17 ans, elle a fait ses preuves. La preuve, c'est que la reine l'a adoubée, si l'on peut dire, il y a encore quelques semaines, en disant qu'elle deviendrait de facto la reine consort. Hein.
Mm-hmm.
Mais pour revenir aux dichotomies religieuses, j'avais un chiffre qui est intéressant, c'est que finalement, dans l'Irlande du Nord, 50% des catholiques seulement souhaitent... quitter le Royaume-Uni. Donc vous voyez, c'est pas aussi simplement dichotomique, les catholiques d'un côté, les protestants d'autre. Il y a quand même la moitié des catholiques qui restent attachés à la famille royale.
Qui montre que le politique n'est pas toujours en adéquation avec...
Voilà. Juste après, allez-y Bertrand.
La presse un peu plus légère se demande si c'est ce soir, cette nuit, avec le rapatriement de la dépouille, on sait que Charles et Camilla vont accueillir donc la dépouille lorsqu'elle sera de retour à Londres, ils n'en profiteraient pas pour passer leur première nuit, dans le fond, à Buckingham Palace, qui normalement est devenue leur nouvelle résidence officielle. On sait que pour l'instant, ils sont encore à Clarence House, qui est situé à quelques centaines de mètres seulement, mais Clarence House, c'est la résidence du couple héritier,
oui,
officiel, normalement.
Qui était la résidence de la reine-mère, d'ailleurs, apparemment.
Donc il y aura un jeu de chaises musicales, puisque c'est sans doute, en toute logique, William et Kate qui vont...
Nouveau prince et princesse de Galles. Et on rappelle qu'on n'avait plus de princesse de Galles depuis 1997.
Hein.
Notons que c'est le lieu de naissance, le palais de Buckingham, le lieu de naissance du petit Charles.
Oui,
voilà. À la maison.
Parce qu'effectivement, ils étaient déjà...
Ils rentrent à la maison.
Elisabeth et Philippe avaient déjà été assignés à Clarence House, mais comme ça avait été un peu bousillé pendant la guerre, il fallait faire des travaux de plomberie. Et donc,
alors regardez comme c'est intéressant
ce
cette autre image là. Je ne sais pas si on peut l'apercevoir.
Ah oui, c'est très écuménique parce qu'on voit un rabbin.
Là, pour l'instant, on aperçoit le parvis. Mais voilà, il salue les différents représentants religieux.
Oui.
Et voilà, c'est ce que vous disiez, hein, que vous pressentiez, Philippe Delorme.
Oui, c'est évident.
Une cérémonie qui sera.
Je pense même que les dignitaires catholiques vont participer réellement à la cérémonie elle-même.
Jean Garrigue, sur le plan politique, peut-être on peut rajouter encore quelque chose. Il y a une petite anecdote. Avant le Brexit, donc les velléités de sécession avaient baissé parce que la reine, pendant un quart de siècle, a beaucoup contribué aussi à réunifier.
C'est vrai, vous avez raison, mais la question du Brexit a réveillé aussi, d'une certaine manière, les velléités autonomistes, que ce soit d'ailleurs en Écosse ou en Irlande du Nord, parce que la majorité des Nord-Irlandais sont plutôt hostiles au Brexit. Et donc, ils se retrouvent en porte-à-faux, notamment... que le Brexit menace leurs échanges avec la République d'Irlande. Et donc, ça, c'est vraiment une pomme de discorde. Mais là encore, ce qui est en train de se passer va, à mon sens, amodier un certain nombre de tensions, va atténuer un certain nombre de tensions. Et la Première ministre, Liz Truss, sans doute, va essayer de donner des...
Elle a une grosse charge, quand même, sur
cette charge.
Pour ce début de...
Mais le fait qu'elle soit présente... C'est évidemment une sorte de main tendue au Nord-Irlandais, l'attestation de sa présence, ça veut dire qu'elle est à leur côté et que, bon, elle est à leur côté dans un moment d'unité, c'est ça qui est important.
Là, on voit les représentants de toutes les confessions chrétiennes, hein. Il y a l'évêque, manifestement, de Belfast, il y avait des presbytériens, enfin les différentes, parce que... Les protestants sont loin d'être unis en Irlande du Nord. Hein. Il y a seulement 17%, je crois, d'anglicans. Le reste sont des presbytériens et d'autres dénominations.
Un peu à l'image de ce qu'on peut voir aux États-Unis. Hein.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Des presbytériens, Ouais. Alors, cette cérémonie, eh bien, on ose interrompre l'espèce de solennité qui s'est déjà emparée des lieux. Mais je pense que dans un instant, on va tout simplement s'arrêter de commenter les images et les laisser parler d'elles-mêmes, les laisser vivre. Voilà, vous l'apercevez, le couple, avant qu'ils ne prennent place dans cette cathédrale Sainte-Anne.
Elle a l'air fatiguée, quand même. La reine, oui. Émue, peut-être.
Marc aussi est fatigué.
Oui.
On imagine que le... Voilà, derniers instants, la cérémonie est censée débuter et aller dans une vingtaine de secondes. On est à l'heure.
brothers and sisters. We gather in this
Nous sommes réunis ici dans cette cathédrale afin de commémorer en mots et prières Sa Majesté la Reine Élisabeth II en l'engageant vers Dieu au cours de ces jours d'endeuillement, en commémorant sa vie et ses travaux pour ce pays et le Commonwealth, et la remercier pour tout ce qu'elle a incarné en tant que reine et en tant que chef d'État pour le peuple d'Irlande du Nord. Au sein de ce contexte, nous voulons prier pour tous ceux dont la vie a été impactée par Sa Majesté, au sein de son cercle familial ou de façon plus distante. Avec reconnaissance, nous voulons mentionner sa dévotion par rapport aux tâches qui lui ont été incombées et la remercier de sa présence sous l'auspice de Dieu et mettre en avant tout ce qui est bon et bien dans nos vies. Le temps est venu pour la prière. Dieu bien-aimé et Père de toute miséricorde, nous vous confions la reine Élisabeth, qui pendant 70 ans a représenté une figure de sagesse et de grâce en tant que reine. Elle s'est engagée à vos services sur les pas de votre Fils, Jésus le Seigneur. Nous aimerions la remercier pour sa foi, son inspiration et pour nous avoir guidés au cours de ces périodes dans un contexte de joie nationale et de griefs privés et publics. À sa famille et tous ceux qui l'ont soutenu au cours de son règne avec confort et force, plus particulièrement dans ce contexte d'endeuillement, de deuil, le roi Charles, nous vous souhaitons une abondance de grâce pour que vous puissiez accomplir vos tâches avec grande sagesse, discernement et lumière spirituelle. Nous rassemblons nos pensées, nos prières avec des mots utilisés par Jésus lorsqu'il a dit à ses disciples : Notre Père, béni soit ton nom, ton royaume doit être établi sur terre comme il l'a été établi au paradis. Donnez-nous notre pain quotidien et pardonnez nos morts. Et ne nous impose pas la tentation, mais délivre-nous du diable. Tel est le pouvoir de la gloire pour toujours. Amen.
A reading from the book of Joshua, chapter 4,
Livre Joshua, chapitre 4, vers numéro 1. Lorsque toute la nation d'Israël a traversé le fleuve Jourdain, le Seigneur a dit à Joshua, « Sélectionne 12 personnes, l'un de chaque tribu, et dis-leur, enjoins-leur de prendre 12 pierres au milieu du fleuve. » Transporte-les avec toi et place-les à l'endroit de ta destination. Ils ont donc sélectionné 12 pierres selon le nombre des tribus d'Israël, les a transportés avec eux à leur point de destination et les ont placés là. Le peuple est arrivé par le fleuve le dixième jour du dixième mois sur la frontière orientale de Jéricho. Ces 12 pierres qu'ils avaient transportées, eh bien, Josué a ainsi dit aux Israélites, lorsque vos enfants demandent à vos parents, que représentent ces pierres ? Vous devrez alors leur dire qu'Israël a traversé le fleuve à ce point-là. Et pour le Seigneur, ils ont donc traversé le fleuve. Le Seigneur, ton Dieu, eh bien, nous a fait traverser ce fleuve comme on avait traversé la mer Rouge. Et comme cela, le peuple sur la planète peut comprendre que Dieu est tout-puissant.
Réjouissez-vous de nouveau
Réjouissez-vous, a dit le Seigneur, que votre gentillesse soit connue de tous. Le Seigneur est proche de nous. Ne vous souciez pas de quoi que ce soit, mais utilisez la prière et la supplication afin que vos prières soient connues de Dieu. Et le Seigneur va défendre vos cœurs par compréhension. Quelle que soit la vérité, quel que soit ce qui peut être honorable, juste et pur, quel que soit ce qui peut réconforter, si des accidents surviennent et si certains événements mérite la prière. Réfléchissez à tout cela et continuez à vous endurer aux tâches que vous avez apprises en vous basant des leçons que vous avez apprises. Au nom du Seigneur, il sera avec vous. Voici les mots du Seigneur.
O Lord,
Seigneur,
our Heavenly Father,
notre Père des cieux, Tout-Puissant et le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le seul dirigeant des princes à partir de ton trône, tu contrôles tout ce qui se passe sur la terre, toutes les choses qui nous ont été données. Nous comprenons ta volonté et nous sommes reconnaissants de notre cœur et à notre souveraine, feu la souveraine, nous lui souhaitons toute la joie par le biais de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
Amen.
In the name of the Father,
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour beaucoup d'entre nous, ici au Royaume-Uni, il y avait deux peuples dont les morts on ne pouvait pas imaginer. Notre propre mort et celle de la reine. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles la mort d'Élisabeth II a été ressentie de façon aussi profonde par autant de personnes lorsque l'information a été communiquée jeudi après-midi. C'était comme si la nation et son grief a été intégré dans ces mots de Christopher Martin. Si j'avais verser toutes les larmes, ça n'aurait pas consolé tout mon chagrin. Et beaucoup d'entre eux se sentaient partie de sa famille de par son serment et cette perte. Je peux l'imaginer, comment vous pouvez la ressentir dans la famille, ceux qui l'aimaient le plus, ceux qui la connaissaient le plus. Votre Majesté, nos prières sont avec vous et votre famille. Et ceci pendant très longtemps. Saint Paul pourrait représenter un vieux moraliste à certaines occasions et certaines de ses injonctions dans sa lettre. Nous montre que c'est très difficile de n'avoir aucune angoisse. Mais j'aimerais vous suggérer que pour la famille de feu, la souveraine, et pour des millions d'autres, il n'y aura pas de problème lorsqu'on rappellera de Sa Majesté qu'elle suivra les ordres de Saint Paul et de suivre la vérité, de suivre tout ce qui est honorable et pur, tout ce qui mérite l'amour, tout ce qui ne peut qu'être mis en avant et tout ce qui mérite les prières. Il y a beaucoup d'autres mots que l'on peut utiliser ici au cours du long règne de Sa Majesté. La fidélité, le soin, l'amour de des tâches, du devoir, la dévotion. Et tous ces mots pourraient être utilisés pour décrire sa relation avec l'Irlande du Nord. Et les aider à vivre les uns avec les autres. Mais il faut se pencher sur ce qu'elle a dit récemment. Et les mots qui seront le plus associés avec la reine Elisabeth et l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, c'est la réconciliation, le mot réconciliation. C'est un mot extraordinaire. C'est un mot très dur, si dur, qu'il est au-delà de notre pouvoir de pouvoir vraiment l'atteindre. Et Dieu devait nous le donner en guise de cadeau. Et en tant que disciple de Jésus-Christ, la reine Élisabeth a suivi les pas de Jésus en tant que chaque femme dans le cadre d'un travail non terminé en matière de réconciliation, je parle de l'Irlande du Nord, eh bien, les servants seront là également. L'amour a toujours montré ici qu'il fallait se tenir droit, et elle l'a fait. Donc, en s'inclinant par respect, était beaucoup plus puissant. C'était un geste grand. L'amour est à l'écoute, beaucoup plus que l'amour ne parle. Quelques mots, en utilisant une langue non familière, une phrase, peut en dire plus que des messages sans fin. L'amour ne bouscule rien, car les endeuillés peuvent être trop envahis, mais lorsqu'il était approprié, il y a eu des encouragements et de l'affection. Et bien que l'on puisse ressentir l'amour facilement, elle ne s'est pas trop penchée sur les griefs. Elle a mis en avant le courage afin de créer un environnement, une atmosphère de réconciliation, où la réconciliation a une chance de se concrétiser. L'amour n'échoue jamais. Là où le maître se tient, le servant se tiendra également. Le serviteur se tiendra également. La réconciliation, c'est la restauration de relations qui se sont brisées. Et le mot ne devrait jamais être abaissé. Ce n'est pas facile à concrétiser. Et en général, dans les travaux de réconciliation, la plupart de nos victoires sont concrétisées de façon modeste. Discrète, la réconciliation par la mise en avant des vertus les plus grandes, les vertus religieuses les plus grandes, l'amour, les vertus civiques les plus grandes, le courage. Mais comme le grand apôtre de réconciliation l'a déjà dit, ce que vous avez appris, reçu, écouté chez moi, faites-le au nom de du Seigneur, soyez en paix, soyez avec moi. Le Saint-Esprit était présent dans l'esprit et les cœurs de feu, la souveraine, lorsqu'elle a mis en avant et elle a parlé, elle a exprimé ses mots très judicieux. Et elle s'est penchée, elle s'est dédiée à la réconciliation sur cette île et dans la province. La vocation de la reine en tant que monarque chrétienne était de travailler pour le bien de tout son peuple. Et ça allait bien au-delà des frontières de ces îles. Mais nous avons encore beaucoup de leçons à tirer de cela. Mais il faut être tolérant en guise de chrétien, pas parce que nous croyons seulement en Dieu, mais la nature du Dieu auquel nous croyons, et parce que nous croyons à l'importance d'une réponse libre à l'appel de Dieu. Donc, c'était très présent dans sa foi chrétienne, et elle était là, elle suivait sa croyance. Il ne fallait pas rabaisser la foi d'un autre ou le manque de foi chez un autre. Ça ne fait pas partie de la foi chrétienne. Et ces dernières années, les dernières années de son règne, le ton et le contexte de sa présence à Chalerène a revêtu un peu plus de religiosité et avait une touche plus personnelle. À Noël, il y a 4 ou 5 ans, elle a dit cela. Nous sommes capables de mettre en avant des actions de gentillesse. Il faut vraiment se méfier de notre gourmandise. Dieu a dit, enfin, personne ne l'a dit, ni général, ni philosophe, aussi important qu'il puisse être, mais Dieu l'a dit, il avait cette puissance, ce pouvoir de pardonner. On peut ainsi restaurer l'amitié, réconcilier les communautés qui ont été divisées et penser les plaies des familles. Et elle a continué à dire la chose suivante, c'est dans le pardon que l'on peut reconnaître l'amour de Dieu. Lors de son baptême, Elisabeth, Alexandra Marie, s'est vu inscrit un signe de sacrifice, une croix. Et pendant 96 ans d'une vie de grand travail, elle s'est offerte elle-même, âme et corps. Elle s'est sacrifiée au nom de Dieu de façon inébranlable dans son amour. J'aimerais conclure ici et vous rappeler avec ces mots qui ont été prononcés par M. Valiant en matière de vérité. Et la reine elle-même a utilisé ces mots dans ses premiers programmes télévisés en 1957. Il a dit, « Je me dirige vers mes pères et avec grande difficulté, néanmoins, je suis là, malgré toutes les fautes. Je lui donne mon épée, elle va me succéder ici. Et mon courage et mes compétences également vont être utilisés. Je porte avec moi les blessures qui ont été produites lors des batailles que j'ai réalisées en son nom. » Et donc beaucoup l'ont accompagné au bord du fleuve. Et il a dit ensuite, « La mort, où es-tu ? Où est ta piqûre ?» Il a continué, il a dit, « Tombe, où est ta victoire ?» Et il a continué, et les trompettes ont sonné de l'autre côté. Le seul vieillier a donné le pouvoir à la reine. Que Dieu protège le roi.
Let us pray. Gracious Father, hear our prayer for all whose lives have been an inspiration and example to others of devotion and faith.
Plus particulièrement, nous aimerions te remercier pour la vie et les travaux réalisés par la reine Élisabeth. Reçois-la dans ta miséricorde, le plus proche auprès de toi. Octroie-lui ton pardon. Perfectionne-la dans l'amour et que ta lumière puisse l'illuminer pour toujours. Tout ce qui a été doté de vérité, de passion, de compassion, de miséricorde dans sa vie et qui est servi de témoignage à Jésus, ton Fils, puisse croître dans la vie de tout un chacun qui a pu partager sa vie avec elle, afin que l'on puisse se réunir au paradis par Jésus, pour Jésus notre Seigneur. Amen. Seigneur, tout généreux, nous aimerions te remercier pour la dévotion et le sens du devoir affiché par les membres de la famille royale qui ont suivi l'exemple de la reine Élisabeth. À ce moment où je te parle, que chacun puisse s'inspirer les uns des autres et générer de la force à partir de la vie de la reine en utilisant sa foi en Dieu. Et l'exemple personnel, le courage de servir peut leur permettre de vivre pour le bien-être de cette nation et pour une meilleure compréhension du monde. Au nom du Prince de la paix et Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur de toute sainteté et producteur de la vie, protecteur et guide, nous te demandons, par le biais de nos prières, de nos réflexions et des actions que nous entreprenons, de remplir les travaux afin de soutenir la vie de cette ville et de ce territoire et pour tous ceux dont la responsabilité puissent améliorer leurs responsabilités malgré les différences religieuses, que l'on puisse traverser les frontières qui nous séparent, que chacun comprenne ce besoin en matière d'amour, de justice, de sécurité et de paix. Au sein de toutes nos institutions, puisses-tu maintenir une unité spirituelle qui puisse aller au-delà des différences, un objectif en matière de bien-être pour tout un chacun. Nous prions pour cela. Au nom de notre Seigneur et de notre Salvateur Jésus. Amen. De notre Sauveur, Jésus. Seigneur Dieu, dont le pouvoir est illimité et dont l'amour est infini, octroie à ton serviteur Charles toute ta bonté. Bénis-le et conforte-le dans son chagrin. Donne-lui la force afin qu'il puisse remplir ses devoirs. Donne-lui ta volonté providentielle et la spiritualité de ton Fils Jésus-Christ. Appelle ou donne-lui la paix dans son cœur et donne-lui le courage d'imposer le bien dans ta famille, dans toute ta compassion. Partage tes biens spirituels et qu'ils puissent et fais en sorte que tout le monde puisse comprendre ta présence ici. Ton Fils est la barrière qui nous sépare du paradis. Nous prions en son nom. Amen.
the peace of the running wave to you. Deep peace of the flowing air to you.
Deep peace of the quiet earth to you.
La paix.
Deep peace of the shining stars.
La paix sur terre, la paix parmi les étoiles étincelantes.
Deep peace of the Son of Peace to you.
Pour le Fils de la paix, pour vous.
And the blessing of God Almighty,
et la bénédiction de Dieu, du Fils et du Saint-Esprit, que cette bénédiction soit pour
Amen.
Portée vers vous pour toujours, ainsi soit-il.